Sur la planète, du Big Bang à la société de l'information, le rythme et la musique parcourent le temps et investissent l'espace sonore. Les collecteurs de sons, anthropologues modernes, tentent de comprendre le lien entre ce phénomène et l'humanité. Bernard Lomax et son équipe accueillent chaque soir de concert les invités qui devraient leur permettre de découvrir la vérité. Radio HDR et le 106 présentent Radio Lomax, l'émission du 106.
Bonsoir, bienvenue dans Radio Lomax. Aujourd'hui, émission en deux parties, avec pour commencer les interviews de Bacchos et Jungle by Night. Et ensuite, on partira direction le festival des Nuits de l'Alligator avec les artistes All In Joe et The Schizophonics.
Radio Lomax, l'émission du 106.
Et nous accueillons Martin et Benoît, le duo Bacchos. Bonsoir à tous les deux.
Salut.
Salut, salut.
Une doublette officiant avec l'agence Giant Steps, dont l'ambition est d'être un acteur majeur et incontournable de la scène internationale jazz, en s'appuyant particulièrement sur une direction artistique contemporaine, celle qui remet le jazz au centre de toutes les musiques et participe au renouvellement des publics en soutenant des artistes qui refont de cette musique un art populaire et partagé par tous. Est-ce que vous vous retrouvez dans cette note d'intention de Giant Steps et notamment sur l'idée de faire ou refaire du jazz un art populaire et partagé par le plus grand nombre? C'est un truc qui vous parle, ça?
Bah, moi, ça me parle plutôt, oui, parce que on a fait du jazz avec Martin, on en fait toujours avec d'autres. Et puis, on vient de là, quelque part, tu vois. On est passé par plein d'esthétiques à travers le jazz. Moi, je viens plutôt du funk ou du groove. Mais bon, j'ai fait plein de jazz funk, plein de groupes instrumentaux où s'il n'y avait pas de chanteur, où on pouvait dire que c'était jazz parce qu'il y avait des solos, parce que vraiment, la musique était vraiment d'obédience instrumentale et qu'il y avait cette liberté-là. Après, nous, dans Bacchos, le mot jazz, il... Franchement, si tu viens voir un concert de Bacchos, je ne suis pas sûr que tu trouves ça jazz. Mais ce qui reste, c'est peut-être dans notre savoir-faire, dans notre façon de faire. En tous les cas, on peut se permettre une liberté, on peut se permettre des choses. Peut-être qu'on a appris en faisant du jazz, même si on est très loin de l'esthétique, tu vois. Mais en tous les cas, c'est une musique qui peut accueillir plein de choses. Donc nous... À deux, on improvise des fois des trucs, tu vois, et ça nous emmène sur des territoires électro ou dub ou groove ou afrobeat, tu vois. Des fois, on est sur des territoires comme ça, mais avec cette improvisation, puis des fois, une façon de prendre des virages qui peut-être viennent du jazz, peut-être qu'on a appris là, quoi.
Est-ce que justement, ce n'est pas une façon de le moderniser, de le dépoussiérer, ce jazz, en allant chercher justement des influences, en l'occurrence avec vous, électro, dub, d'autres styles de musique? Enfin, là, je ne parle pas forcément de Bacchos en particulier, mais de façon plus générale. Est-ce que c'est aussi comme ça qu'on fait un jazz 2.0 du 21e siècle?
Ouais, après, ça, c'est vrai que... Nous, on n'y pense pas forcément parce qu'on a toujours joué beaucoup de musique autre que le jazz. On n'a jamais été des puristes. Vraiment, déjà, le fait qu'ils fassent de la basse électrique dans le jazz un peu acoustique trad...
C'est presque interdit, normalement.
Ouais, donc en fait, le mot jazz, ça ne peut dire vraiment grand-chose au final, quoi. À part que là, c'est vrai qu'il y a... Nous, on improvise un petit peu quand même. Donc ça on pourrait... On pourrait l'associer un peu au jazz, quoi. On est assez libre, c'est un duo, donc c'est assez atypique comme formation, surtout en basse batterie, quoi. Et donc voilà, mais c'est vrai qu'on a toujours joué pas mal de styles différents, donc on s'influence de plein de choses. Et c'est voilà, on a mis un peu tout ça en commun, et puis c'est un peu ça qui fait Bacchos, ce qu'on fait maintenant, quoi.
C'est une musique qui s'est toujours dépoussiérée un peu d'elle-même depuis hyper longtemps, quoi. Donc finalement, le mot est resté, et c'est quand même très beau que le mot soit resté, et ça veut dire quand même que c'est fort au départ, tu vois.
Vous en avez un petit peu parlé, mais peut-être que cette part de jazz, ce que vous disiez à l'instant, elle se retrouve notamment dans des parties où vous improvisez. Est-ce que dans la structure, dans la composition des morceaux, il y a aussi pas forcément dans ce que ça rend en définitive, mais dans la partie improvisation aussi, composition, structuration des morceaux, il y a un peu cette folie, on pourrait dire cette folie de jazz qu'on retrouverait dans Bacchus. Dans le micro, s'il te plaît.
On se permet ça. En tous les cas, au départ, c'est vrai que souvent, les morceaux, on les compose à partir de trip, tu vois, d'une idée que l'un ou l'autre lance d'impro, qu'on enregistre, tu vois, et puis après, on réécoute, et puis on garde une idée, et puis après, on structure, etc. Mais ça part quasiment tout le temps de ça, quoi. Après, voilà.
Pour bien comprendre cette façon de travailler, de composer, il y a des sessions de répète, vous en enregistrez tout ou partie, vous réécoutez, vous retravaillez par-dessus, c'est comme ça qu'il faut le comprendre.
Ouais. Alors on appelle ça nous des résidences raclette. Parce qu'il
y a souvent de la charcuterie et du fromage
voilà,
à table.
On fait ça pendant 2-3 jours. Et en fait, il a une maison à Cigy, pas très loin d'ici, Benoît. Et du coup, on est calé à la campagne, on s'est fait ça quelques fois. Et c'est vrai qu'on se retrouve pendant 2-3 jours et puis on joue, on essaye des trucs et puis on tripe. Et c'est vraiment ça l'idée. On essaye et puis après, on sent tout de suite au final quand on tient une idée. Du coup, on laisse un peu reposer et puis on y revient, on essaye de... C'est comme ça qu'en fait on compose la plupart du temps, quoi.
Ouais. Après, moi, c'est vrai que je peaufine pas mal parce que je fais un peu les mélodies, j'ai le clavier, la basse, tout un tas de trucs. Du coup, des fois, après, on peaufine un petit peu le gros qu'on a trouvé, tu vois. En gros, on travaille vraiment sur le groove au départ, vraiment un groove basse batterie. On a trouvé un petit système où tous les deux, on peut se boucler, tu vois, et être ensemble tout le temps, on est synchronisés. Mais tout ça sans ordinateur, parce qu'on voulait quand même que ça reste un peu chaud, un peu brut, qu'on ne soit pas dans les trucs trop électroniques, etc. Mais on essaye de garder un peu les principes de l'électro, mais c'est très simple, c'est très roots, notre système avec des pédales, etc. Mmh. Et ça, on le trouve vraiment tous les deux ensemble. Et puis après, pour l'EP, par exemple, c'est vrai que c'est moi qui ai plus arrangé les choses. Mais au départ, c'est vrai qu'en une résidence de 3 jours, il y a pas mal d'idées déjà.
On va prendre le temps dans quelques instants de reparler un petit peu de l'EP qui est en cours, mais je veux bien bloquer 2 secondes sur le matériel que vous utilisez. Vous en parliez à l'instant, là c'est d'abord un basse batterie, ce groove que vous cherchez ensemble, et après il y a quoi qui intervient vous parliez de pédales, de looper, enfin voilà, concrètement il y a quoi comme matos dans Bacchus?
Bah du coup, moi, j'ai plusieurs pads électroniques. En gros, j'ai un pad que j'utilise devant à la place d'un tom, quoi, qui est vraiment accessible. Où c'est vraiment que des sons percussifs. Du coup, je fais... en général, c'est moi qui fais la boucle. Parce que, en fait, dans notre système, il faut forcément un esclave et un maître pour qu'en gros, j'enregistre la boucle et ça va donner un signal d'une durée à Benoît et Benoît va se caler avec son clavier ou sa basse dessus, quoi.
Alors là, c'est qui l'esclave et le maître là, dans ce cas-là? Parce que là, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris.
C'est lui le maître, il enregistre la première boucle. Voilà. Et puis après, moi, je peux enregistrer, on a 2 autres boucleurs, un pour le clavier, un pour la basse. Et du coup, on a 3 boucleurs qui sont synchronisés. Et donc moi j'ai un petit clavier, tu vois, pour faire un petit peu des mélodies, un peu arrondir l'arrangement. J'ai la voix et puis j'ai la basse. Et puis Martin, il a la batterie et les machines, en gros, tu vois. Donc finalement, à deux, on arrive à faire pas mal de bordel.
Et puis on peut faire plusieurs couches en plus, du coup, sur chaque loofer. Donc en gros, on peut foutre un bon merdier si on veut, mais...
Je voulais revenir aussi 2 secondes sur Giant Steps, qui vous accompagne. Concrètement, c'est quoi l'apport pour vous, pour Bacchus, et qu'est-ce qu'ils mettent, quels moyens ils mettent concrètement pour vous aider à vous développer?
Ce qui est cool, c'est qu'on a commencé le groupe en étant suivi de près par cet agent-là qui s'appelle Pascal Pilorget, qui s'occupe de plein de super artistes aujourd'hui, comme Tigran Amassian, Anne Passeo, Guillaume Perret, il a plein d'anglais, Chabaka, il y a un super catalogue. Et en gros, il a organisé notre premier concert, c'est lui qui l'a organisé, il voulait voir, tu vois, le duo, il avait déjà vu une formation sous mon nom qui s'appelait Cycles, où Martin était à la batterie, ça a été notre premier projet tous les deux. Et puis après, quand on a travaillé tous les deux, il a voulu voir tout de suite, tu vois, donc il nous a suivis. Et il nous a programmé en première partie à Paris d'un groupe qui s'appelle Nowhere, un batteur qui s'appelle Louis Cole, là, qui a bien le vent en poupe. Donc on a joué, on a fait plusieurs concerts, et puis après on est rentré dans son catalogue de manière un peu officielle. Mais c'est vrai que tout de suite, il a eu l'œil sur nous, et tout de suite, on a travaillé ensemble. Et bon, il s'est dit, les gars, vous faites une musique de ouf, un peu radicale. Franchement, dans mon milieu à moi, le jazz, ça va pas être simple, tu vois. Mais je kiffe, moi, c'est ça que je cherche.
C'était vraiment un coup de cœur, en fait, de cette personne-là.
Ouais, carrément. Et puis voilà, on travaille là-dessus, tu vois, et ça fait un an en gros, donc c'est assez frais, quoi, quand même. Mais on essaye d'inventer des choses, tu vois, en ce moment, on essaye de trouver un label qui colle un peu à notre esthétique. Et tout ça, on le fait ensemble, il fait un peu notre manager aussi, tu vois. Et puis voilà, petit à petit, on va essayer d'agrandir un peu l'équipe.
En préparant nos échanges, évidemment, j'ai jeté l'oreille sur différents morceaux que vous aviez faits, et notamment en écoutant le morceau Brazzaville, j'ai pensé à un autre projet français. Je veux bien qu'on en écoute un extrait, ça s'appelle Je vais de Rane. On va voir si ça vous parle.
Athènes frontière. Athènes vieille. Je te pense, donc je frappe. Jamais placer son tibia près des propylées. Je pense donc je frappe, descendre les champs martyrisés. Je pense donc je frappe, avec des bouts de foie tromper les vautours. Je pense donc je frappe, garez-vous des atlas, méfiez-vous des Sisyphes.
Voilà, ça s'appelle Je vais de Rane. Donc c'est pareil, c'est un duo, bon, peut-être avec un peu plus de machines encore. Et puis cette voix, un poète qu'ils enregistrent avant, donc qui n'est pas là lors des concerts. Enfin voilà, à l'occasion, vous irez jeter un œil. Je vois à vos regards que vous ne connaissiez pas forcément ce projet-là. Est-ce que éventuellement ça vous parle, ça vous évoque un truc ou un autre Moi j'y ai vu un lien, mais je suis peut-être que tout seul dans la pièce à y voir un lien. Je ne sais pas ce que ça évoque éventuellement pour vous.
Ah, moi, ça me fait penser, je vois, des trucs de groove un peu même à la André Mainviel ou, tu vois, ce genre de mec un peu engagé qui travaille aussi avec la langue et avec le français d'une manière un peu particulière. Enfin, j'ai l'impression que c'est assez intéressant en tous les cas.
Vous, il y a beaucoup de morceaux instrumentaux, mais il y a certains morceaux où ça parle, ça chante. Enfin, voilà, quelle place prend la poésie dans votre projet et est-ce que, éventuellement, le texte, c'est un axe de développement pour Bacchus?
Martin.
Je t'en prie.
Bah écoute, moi c'est un axe qui me plaît, que j'ai envie. Moi je suis pas du tout chanteur au départ, je suis juste bassiste, tu vois, j'ai fait ça pendant des années, être derrière, accompagner les gens, accompagner les chanteurs. Et là j'avais envie de le faire, tu vois, pour mon projet. Et du coup je le travaille, c'est encore en chantier. C'est pas vraiment des chansons dans Bacchus, il y a des bouts de texte des fois, ça sort comme ça, tu vois. L'idée c'est quand même de travailler sur la transe, donc d'avoir un peu des gimmicks aussi à la voix. Moi je trouve ça cool, et puis de toute façon j'aime aussi ce rapport qu'on a tout de suite entre le public et une voix, entre le public et des mots, quoi. Et du coup voilà, ça, je trouve ça bien qu'il y en ait, donc petit à petit il n'y en a pas forcément de plus en plus, mais il y a une phase où j'ai essayé beaucoup de choses, c'était un peu le bordel. Et puis là, maintenant, on cadre un peu les choses et voilà. Non, c'est bien, c'est cool.
Pour conclure, on l'a évoqué un peu, il y a un EP qui se prépare. Est-ce qu'on peut annoncer un moment où les auditeurs, les auditrices pourront officiellement toucher et entendre du Bacchus? C'est prévu pour quand?
Ouais, c'est prévu du coup la sortie de l'EP en septembre, a priori. Là, il est en train d'être mixé et tout ça par Manu Gallet, notre ingé son. Et il y aura un titre qui va sortir, le single, il sortirait au printemps. Voilà. Donc on est dessus là.
Ça ouais, on prend notre temps pour faire ça bien, que ce soit bien gros.
Très bien. Merci à tous les deux, Martin et Benoît, le duo Bacos, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Yes, on vous retrouve sur la scène du 106, évidemment, à partir de 20h30.
Radio Lomax.
Et parmi les belles surprises de la fin d'année 2018 figure la nouvelle sortie de l'excellent label Amstel danois Rush Hour, Jungle by Night, soit 9 jeunes néerlandais, adoubés par Tony Allen comme étant le futur de l'afrobeat. Le collectif sort Livingstone, un cinquième album instrumental aux influences diverses, associant afro-funk, jazz à des sonorités plus électroniques. Premier extrait de l'album Angmat, Hamak en néerlandais, semble honorer le nom du groupe en évoquant l'indolence d'un soir tropical, une langueur trompeuse au vu des prestations scéniques fiévreuses de Jungle by Night, donc évidemment à découvrir ce soir au 106 à Rouen. Et nous accueillons, alors je ne sais pas si je vais bien prononcer, Yake et Paika.
Yeah.
Et nous sommes avec Leïla pour la traduction. Bonsoir à tous les deux. Alors, comment vous avez découvert cette culture musicale qui est l'afrobeat, et est-ce qu'il y a une scène afrobeat aux Pays-Bas?
Well, there aren't any schools in the Netherlands.
Il voit pas forcément son groupe associé à l'afrobeat. Il dit comme ils sont neufs, ils viennent tous, ils écoutent différentes choses, et donc il y a cette diversité qui est toujours, tout le monde ramène leur petite pièce à l'édifice. Donc il y a cette diversité. Il a dit aussi qu'en 2010, il y avait beaucoup d'albums d'autrefois qui étaient remis sur vinyle, qui étaient réédités et qui refaisaient surface. Ils pensent aussi que ça a contribué un peu à leur son actuellement.
Comment vous avez appris à jouer de la musique? Enfin voilà, comment vous avez appris la musique?
I don't know, we just started out.
Effectivement, c'était des musiciens qui se sont retrouvés il y a 10 ans et ça leur amusait de jouer ensemble. Et puis comme ça, ils ont monté sur scène. Et puis c'était bien. Et puis encore une opportunité de monter sur scène. Encore une autre opportunité. Ce qui fait que maintenant, ça continue. C'est une histoire qui continue depuis 10 ans. Il dit qu'il y a beaucoup d'instruments et il ne voit pas forcément cette association, cette étiquette d'afrobeat qui est systématiquement collée sur eux. Comme ils ont une grande diversité d'instruments et ils commencent à intégrer un peu de l'électronique, il aime les deux, ils semblent plus avoir l'idée que c'est plus open que l'afrobeat. Que c'est plus divers que l'afrobeat. Il ne nie pas l'idée qu'effectivement, il y a une influence, mais il cherche une nouvelle direction.
En effet, il n'y a pas que l'afrobeat, évidemment, qui nourrit votre projet. On pourra peut-être parler des différentes influences. Moi, dans le dernier album, Livingstone, j'ai retrouvé des filiations, un lien avec des choses comme Menahan Street Band. On va en écouter un extrait. Voilà, un extrait de Menahan Street Band, The Crossing. J'ai pensé aussi à des choses comme le Boudos Band ou des choses aussi des groupes français comme Akale Wubé ou Arad Kilo. Bref, je ne sais pas si ça vous parle, ce qu'on vient d'écouter là, ou voilà, c'est des choses qui vous parlent.
We listen to this song a lot, but this song is...
Il a commencé par dire que le morceau, il date d'il y a 7 ans, mais une des choses qu'il apprécie dans ce morceau, c'est qu'il a parlé de la clarté. Et effectivement, c'est quelque chose qu'il trouve que leur groupe cherche également, cette clarté, parce qu'il y a 9 membres du groupe sur scène, ce qui va donner une harmonie à leur musique. Mais il dit par contre, c'est intéressant de prendre cette groupe qui produit une musique qui est très live, qui donne envie les gens de danser, et puis retransposer ça en studio. C'est une des enjeux, donc cette idée de clarté, ça pourrait peut-être aider à transférer leur musique de sur scène jusqu'à le studio dans l'enregistrement.
Vos morceaux sont exclusivement instrumentaux. Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas encore rencontré la ou le chanteur?
Well, we are not really good singers.
On n'est pas des très bons chanteurs.
I don't know. Yeah, maybe we will do a collaboration one day, or I don't know. But it's also there's some.
Il a dit que effectivement, personne dans le groupe vraiment chante. Mais il a dit aussi, c'est pas vraiment la question pourquoi on n'a pas de chanteur, chanteuse, parce qu'il y a tellement déjà de découvrir avec tous les instruments, avec 9 personnes, donc ils sont toujours dans une découverte, donc ils n'ont pas forcément, ils n'ont jamais cherché finalement, parce que comme il a dit, il y a des membres du groupe qui sont plus, ils écoutent, ils se nourrissent plutôt des morceaux funky, il y a d'autres qui partent en club, en boîte, il dit même l'afrobeat, et tous ces musiques qui nourrissent, finalement, c'est pas les paroles, c'est pas le chanteur ou la chanteuse qui fait qu'une musique, ils trouvent que
ils n'ont pas besoin. Mais s'il y en avait un ou une avec qui vous deviez travailler, ce serait qui? Comme chanteur ou chanteuse?
Well, we have a lot of different
I think it would be nice to have.
Il pense surtout si jamais ils devraient collaborer, que ça sera vraiment plutôt quelque chose d'inattendu. C'est l'attendu le plus facilement associable, ça sera le soul, le rétro, le funk, tout ça. Et eux, ils ont cité pourquoi pas vraiment associer, faire cette fracture de style, une chanteuse classique ou les chanteurs de cet rythme mongolien qui résonne avec la gorge. Ou pourquoi pas chercher ce son inédit inouï qui ne va pas avec leur style, hein, qui fait que ça sera complètement quelque chose de nouveau. Ça sera aussi sur une base d'inspiration, il va prendre quelque chose de différent et puis il y aura cette synergie qui va mener vers une inspiration nouveau.
Dernière chose, qu'est-ce que vous écoutez en ce moment?
What are you listening to at the moment?
Well, we, I think in the car we had this song "Guten Morgen Sonnenschein."
So in the car they're listening
German
to
Schlager.
But Oktoberfest is over.
Nana Muscuri, you know.
It's a German. It's allemand.
We also have like joke songs always on tour. So we
what songs?
Like a joke. So it's not really a thing that we would really listen to, but we put it on all the time. And then at the end of the tour, when you're in the cars for so many hours that you all know this song and you know, this.
But when we also like to listen to a lot of French music.
Ah, they like, ils aiment bien la musique française.
But the really old one, like Jacqueline Taieb, Clotilde. Like very
old as in the 20s?
No, 60s.
Okay. But the fun thing is that when we...
La musique française des années 60.
Maybe first translate, no?
Jacqueline Taieb, tu connais?
Jacqueline Taieb?
No, that's the fun thing. Because not a lot of people in France know...
We don't know. So who is she?
Bravo is one of our. Maybe you can.
Le cœur au bout des doigts.
Also, yeah.
Le cœur au bout des doigts. Ouais. Your heart at the edge of my fingers. Mm-hmm.
Yeah.
Well, it says it all, right?
Vous connaissez?
Clotilde, le chat.
Yeah, le chat pas écrasé.
Le chat écrasé.
Don't step on the
marche pas sur le chat. Marche pas sur le cul de la chat.
The tail of the cat, mm-hmm, yeah.
Mm-hmm,
pas
mm-hmm.
écrasé, le chat, yeah.
But they have this, mais ils ont la tendance d'écouter la musique un peu farfelue en voiture. Quand ils sont en tournée, c'est la musique complètement différente. Et donc, du coup, quand la tournée est finie, bah, ils abandonnent ce morceau un peu ridicule de musique allemand qu'ils disaient tout à l'heure.
But also, just now we were in Germany, mm-hmm. Last week. And for me, I discovered a new, electro.
Ils ont découvert une musique nouveau allemand électro.
Lena Willekes.
It's a singer or
no?
It's a
girl.
Okay.
And
une chanteuse, Lena Willekes.
No, she doesn't sing.
Ah.
It's like techno music for, but really dark, really nice.
Une DJ.
C'est dark, c'est du techno dark.
Très bien. Merci à vous, Jungle by Night, d'avoir répondu à nos questions. On était avec Yake et Paika. Je rappelle que votre dernier album Living Stone est sorti la fin de l'année 2018 sur le label Rush Hour et on vous retrouve ici même au 106 juste après le concert de Bacchus avec qui nous étions au micro il y a quelques instants.
Radio Lomax.
Deuxième partie d'émission, direction le Festival des Nuits de l'Alligator au 106. Et on commence avec l'interview des artistes All In Jaws.
Et ces Parisiens, ils sont là, hein, réussissent un tour de force depuis 6 ans, distiller un rockabilly dansant au travers de compositions rock ultra modernes. On ne sait plus trop tant les étiquettes se brouillent dans l'irrésistible élan rock'n'roll qui insuffle avec un esprit qui se régénère plus, qui se réfère plus à l'énergie sulfureuse qu'à un revival de genre. Bonsoir à tous les trois, je vous en prie, saisissez-vous des micros.
Bonsoir.
Bienvenue. Avec vous, on navigue par tous les styles du rock, de la surf au blues, au punk, en passant par le rockab évidemment. Est-ce que vous auriez un amour débordant pour tout ce qui est enregistré de manière crado et qui fait secouer les gibbles?
On aime bien secouer nos gibbles et on aime bien aussi les trucs enregistrés crado, mais on écoute même les Beatles, même quand ils étaient bien enregistrés, donc genre après 62.
Ça fait secouer les pattes les Beatles encore aujourd'hui.
À fond, je crois que...
Ouais, c'est la folie, c'est la folie, c'est des dieux. C'est des...
Oh my god!
On kiffe bien le fait qu'il y ait de la mélodie en plus de Squealing Gibble. Comme Mozart.
Je trouve ça presque incroyable que le rockab, même si on le disait, il n'y a pas que ça dans ce que vous nous proposez, mais en tout cas que le rockab, ça fonctionne encore aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une recette, voilà, une formule un peu magique, que ce soit, je sais pas, sur la rythmique, voilà, comment vous le faites sonner à votre sauce aujourd'hui?
C'est le deuxième et quatrième temps.
c'est le 2-4. Le truc qu'on ne sait pas taper ici en général, ouais, dans les publics.
Dans les foyers.
C'est ça. Ils sont ces gens. 1, 2, 1. Alors que c'est 1, 2, 1, 1, 2, 1. Et tout de suite, ça.
Le contre-temps.
Tu dois tout de suite envie de danser, quoi.
Qui nous vaut de se faire charrier par les Américains parce qu'on ne sait pas le faire.
Ouais.
Mais vous y arrivez.
Nous, on y arrive. Ouais. Nous, on essaye. Je crois qu'on se débrouille pas trop bien. Au bout de 6 ans.
2, 3, 4. Ah, on sait plus.
Maintenant, on fait taper dans les mains dans tous les temps au public. Comme
voilà,
ça,
c'est y a pas de... ça.
En fait, vous seriez presque déjà des Américains.
Voilà.
Non, toi, t'es français. Moi, je suis américain. Toi qui es français. Moi, je suis américain.
C'était autour du Texas.
Du coup, qu'est-ce que vous racontez dans ces morceaux?
On parle d'amour.
Beaucoup.
Quasiment exclusivement d'amour.
La fête aussi.
La fête, l'amour.
Cœur brisé.
De cœur brisé le lendemain de fête aussi.
Mmh. Voilà.
C'est assez autobiographique, hein. L'amour, la fête, les copains.
C'est ça vos quotidiens, vos respectifs.
On essaye.
On essaye.
Du coup, j'imagine, j'entends là-dedans que ça vous rend heureux. Vous avez la banane, voilà, pas que sur la tête, mais
c'est
pas
la aussi. Sur la tête,
je pense fort. Il faut vraiment être.
L'amour, quoi.
Il faut vraiment être aigri pour pas être heureux de juste faire de la musique et de se marrer avec ses copains.
Ouais.
Pendant toute la semaine.
La fête.
Non, on est très contents, ouais.
On disait aussi que voilà, il n'y avait pas que le rockabilly dans votre musique, mais que vous en affranchissiez. Et il y a tout un tas de choses, on en a un petit peu parlé. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait également une sorte de projet parallèle à tendance punk. Est-ce qu'on peut aussi en parler, même si ce n'est pas le nom et le projet ce soir? Mais j'ai l'impression qu'il y a ces filiations dans l'esprit, mais aussi bien dans la musique, mais aussi dans ce que vous dégagez humainement.
En fait, on a commencé, nous, à jouer par plutôt du punk et des trucs comme ça. C'est pour ça aussi qu'on a kiffé le rockab, parce qu'il y avait ce côté vraiment sauvage et chouette, quoi, qu'on a adoré. Mais le projet qu'on a à côté, on a plusieurs petits projets où on joue en fait, avec d'autres gens. On est toujours tous les trois, plus d'autres gens. Et on a un projet un peu garage, je pense que c'est plutôt Garage 60s. Celui-là est très... comment on dit,
fidèle,
puriste,
fidèle, ouais, puriste.
Enfin, c'est assez
fidèle
à
ce qu'on faisait à l'époque, ouais,
dans un carcan,
c'est du Northwest Garage, c'est à dire que tout ce qui s'est passé en dehors de Seattle, ça nous intéresse. C'est les Sonics et les Standells.
On a aussi joué dans un groupe de reprise de Eddie Mitchell, parce qu'il faut savoir qu'Eddie Mitchell dans les 60 c'était de la bombe. Il enregistrait avec Jimmy Page et, pendant que c'était un musicien de studio, et la London All-Star,
la Bobby Clark à la batterie, batteur Vince Taylor.
Et du coup, ouais, on est 10 sur scène, on s'appelle les 10 Michel. C'est vachement bien. Mais on a fait un seul concert. Pour l'instant, c'est très exclusif.
Et Donc si j'entends, voilà, au centre de tous ces différents projets, c'est important, enfin, que vous y soyez tous les trois à chaque fois. Ouais. Voilà, il y a ce lien-là avec les autres musiciens. Qui c'est, là, vous avez cité plein de d'illustres musiciens que j'entends comme influence ou comme référence, mais dans vos projets à vous, qui tourne autour de vous? On peut en parler, ils sont pas là ce soir, mais voilà, on peut en toucher peut-être deux mots.
Le guitariste de cet autre projet qui s'appelle Francis, ah oui, qui joue dans un groupe qui s'appelle les Wave Chargers.
C'est de la bombe, c'est de la surf parisienne, c'est trop bien.
Et ouais, c'est hyper bien. Et le chanteur s'appelle Thomas Rodriguez, qui a un groupe qui s'appelle Shorty Tom and the Long Shots, qui fait de la country à la
Hank Williams.
Hank Williams, voilà.
John Norton.
Et
avec un chapeau de cowboy. Et tout,
c'est lui qui a fondé le groupe de The Nobles, du coup, de garage. Et on était là, genre, ok, lourd. Et il a sorti une espèce de voix de ouf à la Sonic, genre comme ça on a fait ok.
Mais pour revenir à ta question, ouais, on trouve ça important qu'on soit tous les trois dans les mêmes groupes à chaque fois pour pas avoir de, c'est-à-dire qu'on met jamais de côté All In Joe's, qui est quand même notre projet principal.
Carrément. Ouais.
Et où on fait des compos, où on essaye de trouver un peu justement notre son, notre truc, on mélange un peu toutes les influences. Et ça nous permet aussi d'évoluer dans plein de styles de musique qu'on n'aurait pas forcément joué. Donc c'est assez cool, moi j'ai progressé vachement à la basse en jouant dans ces trucs-là.
Je pense que ça nous donne aussi un répertoire intéressant, c'est quand tu regardes, je reviens toujours aux Beatles, mais c'est ce que je connais le mieux. ils ont tellement joué en bourre qu'ils connaissaient genre 70 chansons, tout ce qui avait été fait en rock'n'roll avant, ils le connaissaient, et du coup ils avaient un bagage de fou pour passer à l'étape supérieure, je pense que c'était important pour eux, quoi.
Donc ouais, c'est chouette.
Puis ça nous permet de retrouver tous les trois, parce que parfois aussi le fait que Jivan ne soit pas le chanteur lead des Nobles, de se retrouver tous les deux aussi autour de juste la partie rythmique et pas partir ça entre nous, et même pour les Michel, ça nous permet de bosser tous les trois aussi ensemble sur d'autres façons de jouer et d'autres façons de faire, et c'est super intéressant pour nous, même si ça prend un peu de temps.
Pas beaucoup, mais pas tant que ça, on apprend, quoi.
Mais c'est tant pas du temps perdu, musique, quoi, en tout cas. Clair. Ouais, donc tu joues la musique, de toute façon tu perds pas ton temps.
C'est clair.
Moi, j'ai l'impression que au travers de ce projet là mais aussi de ceux qu'on vient d'évoquer, voilà, il y a ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, il y a cette filiation, ce lien un peu entre tous les styles du rock and roll. Je parle un peu large, un peu vulgairement peut-être, mais voilà, je perçois un truc comme se réapproprier l'histoire du rock. Il y a cette idée-là, j'ai l'impression, dans le projet.
Ouais, c'est vrai, ouais, carrément.
Carrément, carrément. Et surtout qu'on a, en plus, on a vraiment grandi ensemble, tous les trois, donc on a fait un peu nos armes là-dessus, ensemble, quoi. Genre, avec Lucas, on s'est rencontrés en maternelle, et puis avec Baptiste, en sixième. Et on s'est plus quittés, on a toujours fait de la musique ensemble. Du coup, c'est vrai que on a quand même plein d'horizons. Depuis qu'on a 14 ans, ou 12, 13 ans qu'on joue de la musique, on a écouté plein de choses. Et c'est vrai qu'on essaie un peu d'en faire une sorte de synthèse. Donc que ce soit, tu vois, des trucs genre Led Zepp ou des trucs qui n'ont rien à voir, qu'on kiffe, ou ACDC, ou du genre Status Quo, des trucs...
Non, on n'hésite pas à piocher,
c'est ça.
De prendre chaque élément de chaque style qui nous intéresse, quoi.
Le but, c'est quand même de rigoler, hein.
Ouais.
Non, mais on est là pour s'amuser, quoi. Donc,
grave.
On ne prend pas la tête à justement faire des ponts à Deep Purple, sur une chanson qui n'est pas forcément avec une couleur années 70. Je pense que c'est ça qui est intéressant. Non, mais c'est ça qui est intéressant.
Grave.
Est-ce que vous êtes toujours autoproduit? Ouais, je sais qu'à un moment vous cherchiez plus ou moins une équipe, un manager. J'ai cru voir ça.
Bah là, c'est assez chouette.
Sur l'actuel, mais pour le moment, vous en êtes où là?
On est toujours autoproduit, mais on commence à avoir une super équipe qu'on embrasse très fort d'ailleurs.
Qui nous écoute.
On s'embrasse très fort.
On s'entoure, ouais. On a commencé à travailler avec des gens qui nous aident.
Qui sont très chouettes.
Encore autoproduit.
Ils sont très gentils.
Qu'est-ce que ça permet justement de rester dans ce côté autoproduction?
On n'a aucune concession à faire sur ce qu'on enregistre, sur ce qu'on joue et sur ce qu'on écrit.
Ouais, c'est déjà vraiment chouette. Après, c'est vrai que je pense pour la musique qu'on fait, ça va être difficile de trouver genre des gens qui vont nous forcer à faire des choses. Voilà. Je veux dire, vu que c'est pas quelque chose avec lequel on gagne beaucoup d'argent aujourd'hui, ce qu'on fait. Je pense que les gens qui bossent dans la musique qu'on fait et qui essayent de la faire vivre, c'est pas des relous en règle générale, et c'est des gens qui aiment ça, quoi.
Je pense que on commence, enfin pour l'instant on est encore autoproduit, mais on commence à travailler avec des gens et on n'y va pas à reculons, parce qu'on sait très bien qu'on va pas tomber sur un producteur avec un énorme cigare et des longues pelles à tarte qui va nous dire il faut jouer ça.
Ça existe encore des mecs pareils?
Je sais pas, j'espère, parce que c'est vraiment la classe, quoi.
Probablement, mais pas pour notre musique, quoi. Enfin, j'espère pas.
J'ai vu également que vous aviez effectué à un moment une résidence au Canal 93 à Bobigny.
Pas loin de chez moi.
J'imagine que c'est votre côté blouson noir banlieusard. Ça s'est passé comment? Enfin, c'était comment? Ça a permis quoi?
Alors, c'était pour les Inouïs.
Ouais.
Les Inouïs. Avant les Inouïs du printemps de Bourges.
On a participé à ce truc. Et on a fait une résidence, on a cherché une SMAC pas loin de chez nous. Moi j'habite à Pantin, c'est pas loin. Et on est tombé là-dessus, ils sont très sympas. On les embrasse aussi.
Très bien accueillis.
Voilà.
Et c'était très chouette. Mais peut-être qu'on y retournera d'ailleurs.
Mais on embrasse surtout très fort Studio Campus, qui est notre studio de résidence.
C'est le QG.
Bah, ouais, ça fait 10 ans qu'on est là-bas.
10 ans qu'on est là-bas.
10 ans, c'est des gens extraordinaires.
Extraordinaires.
C'est de la bombe.
Vous avez évoqué aussi les Inouïs du printemps de Bourges. Voilà, qu'est-ce que ça vous a apporté, cette aventure-là?
Bon, écoute, on a bien rigolé, on a rencontré plein de gens. Bah, c'est là aussi on a rencontré notre tourneur avec qui on travaille, plus ou moins le moment où on a rencontré notre manager. Et, enfin voilà, c'était assez chouette, quoi.
Ouais, c'est-à-dire que, bon, même si on n'a pas remporté la palme, c'est des potes à nous qui l'ont remporté d'ailleurs, c'est Fer, c'est des potes, bon, on les embrasse.
Avec qui on était au lycée.
Ouais, et au collège même.
Au collège.
Mais on a rencontré plein de gens et bah, ça nous a fait un super concert à Paris, au FGO Barbara. Donc,
une super salle à Paris.
Dernière chose, dans les étapes, on parlait à l'instant des Inouïs là, du printemps de Bourges. Ce soir, c'est les nuits de l'Alligator. Est-ce que ça, je sais pas, ça représente quelque chose de particulier pour vous? Voilà, ça peut être une étape dans votre parcours.
Ouais, c'est hyper chouette, c'est surtout de tourner en France, parce qu'on tourne vraiment beaucoup à l'étranger, nous. Plus souvent à l'étranger, en Espagne beaucoup, en Allemagne. Voilà. Et du coup, tourner en France, surtout dans des belles salles comme ici, c'est vraiment chouette, quoi. Parce que même en termes d'accueil, de confort, de son, c'est hyper cool.
Bah, on a pas mal tourné en France, mais surtout ouais, dans les clubs. On a commencé par les petites salles. Et donc depuis, comme tu disais, on a pas mal tourné en Espagne. Ça fait trop du bien de tourner en France. Et en plus, le line-up est incroyable.
Ouais, c'est clair. Partager la scène avec des groupes pareils, c'est quand même super
déjà
cool.
Ils sont trop sympas. C'est bien, la bombe, quoi. Les Schizophoniques, c'est Yak, c'est trop, trop bien.
Puis il y a ce côté un peu génial qu'on va suivre pendant 5 jours,
ouais.
Toute la tournée. Donc tu vois, t'es pas le truc d'un soir où tu te rends compte, tu te dis machin, là on va vraiment passer notre temps ensemble.
Vous partagez un bout de vie plus qu'une soirée avec ces groupes-là.
Et c'est vrai que c'est marrant parce que ouais, les Schizophoniques se faisaient croiser en Espagne dans des conditions qui ont vraiment rien à voir. C'est un festival complètement.
Schnapps,
espagnol, quoi. Ça, c'est assez marrant de se retrouver dans des énormes loges avec un couloir de 2 km pour y accéder, c'est assez chouette. Rigole bien.
Très bien. Merci à vous, Olin Jones. Je sais pas si je prononce.
Olin Jones.
Jones.
Ouais.
Voilà.
Jones.
Bon, pardonnez.
Howling Jones.
Howling Jones.
Merci d'être passé par nos micros. On rappelle que évidemment vous ouvrez cette soirée à partir de 20h ici au 106.
Radio Lomax.
On retrouve les Schizophonics, sont en un mot explosifs. Leur concert frénétique, c'est la combinaison imparable entre énergie et sens du rock. Quand ils arrivent sur scène, ils attirent votre attention et ne lâchent rien. Ils ont acquis une formidable réputation dans leur base natale de San Diego. Bonsoir à tous les trois.
Hello, thanks for having us.
What's the crack?
What's the crack?
L'Arizona, puis la Californie à San Diego. Nous, Français, ça nous fait rêver. C'est quoi l'Amérique de ce coin-là?
Well, it's all surfing and going to the... I don't know. No. You know, we actually do. We do live in a sort of more.
Là où ils habitent, c'est beaucoup influencé par le surf. Il y a toujours des groupes de surf rock, des groupes de mode, de garage. Et donc, même si le niveau de vie, enfin le coût de la vie est élevé, ça reste quand même très marqué par cette scène-là.
C'est pile poil dans ce coin-là que Donald Trump, le président, verrait bien son mur. C'est quoi votre regard sur ce projet présidentiel?
It's so embarrassing. It's so embarrassing being from.
En substance, ils ont honte du président qu'ils ont et qui accumule les déclarations absolument insensées. Et puis les gens finissent par être un petit peu. Insensible à ce genre de choses-là. C'est un peu comme si on pliait une branche d'arbre au fur et à mesure. Si on faisait ça d'un coup, ça casserait. Mais là, les gens finissent par s'habituer à ce que ça soit de pire en pire. Cela dit, il se trouve que ça génère aussi une implication politique plus importante. Aux élections de mi-mandat, par exemple, à San Diego, il semblerait qu'il y ait eu 10 fois plus de participation que précédemment. Et puis eux-mêmes, ils sont très investis, très engagés, notamment dans le soutien de Bernie Sanders, candidat démocrate très à gauche, plus à gauche que Hillary Clinton, pour vous donner une idée.
Vous avez depuis pas mal tourné en Europe, en Espagne, en Italie, en Angleterre, en France évidemment. Est-ce si différent des USA et en quoi c'est différent des USA?
I think so. US reminds me a lot of touring in England.
Les USA, ça leur fait penser à l'Angleterre au niveau des conditions. Hein. Alors qu'en Europe continentale, il y a plus d'hospitalité. Ils apprécient notamment le fait d'avoir un catering comme celui du 106, qui est remarquable, d'avoir une chambre d'hôtel. C'est vraiment rarement le cas aux États-Unis. Ils savent pas toujours où ils vont dormir. Ils vont dormir de temps en temps chez les gens. En revanche, le public, quel que soit le lieu, c'est toujours le même. Il semble qu'il y ait un groupe de personnes intéressées par le garage. Et donc, voilà, ça, de ce point de vue-là, ça ne change pas.
Pour la musique des Schizophonics, on évoque notamment, entre autres, Jimi Hendrix, les Stooges, James Brown. Que des légendes, hein, vous l'aurez compris. Qu'est-ce qui vous nourrit, vous, en termes d'influence?
Definitely MC5. All those, pretty much. MC5 is a big... influence on the sound.
Il y a une influence évidente du MC5 pour le son, Hendrix concernant le jeu de guitare, James Brown pour ce qui est du spectacle, du show. Alors donc il y a aussi une influence dans les d'autres projets annexes de groupes des années 60 de garage. Dans son groupe The Rosalinds, et puis il y a également l'influence de groupes locaux comme The Loons et Creepy Creeps qui sont sur le label Ugly Things, et notamment Creepy Creeps, c'est un groupe avec lequel ils ont tourné et qui leur a appris qu'une chanson, il fallait qu'on puisse danser dessus, et si c'était pas le cas, maintenant c'est non pour ces chansons-là. Ils refusent ces chansons-là et ils vont se focaliser sur des chansons qui font danser les gens.
Vous avez travaillé avec le label justement Ugly Things, vous en parliez à l'instant. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce label? J'imagine qu'il y a un rapport avec le magazine.
Yeah, so Ugly Things, they had...
À la base, Ugly Things, c'est un magazine qui existe depuis 35 ans. C'est Mike Stax, hein, qui est... quelqu'un qui les a beaucoup aidés et qui est très proche d'eux. Il les a aidés, il a coproduit l'album, sorti un 45 tours pour eux. Et puis c'est aussi, alors l'expression est utilisée, c'est une forme d'Indiana Jones du rock là, qui s'est intéressé à ces... cette foultitude de groupes de garage des années 60 qui, au moment de l'invasion british, hein, British Invasion, était extraordinairement nombreux aux États-Unis. Et donc, voilà, c'est quelqu'un qui découvre des groupes comme ça. Et il a découvert, par exemple, un groupe qui s'appelle The Conspiracy.
Ça a été quoi les apports de ce label? C'est son expertise, son catalogue, son histoire?
C'est quelqu'un qui leur fait surtout découvrir énormément de choses. À chaque fois qu'ils vont chez eux, chez Mike Stax et sa femme, ils leur font découvrir des disques en leur disant bah, « ça vous plairait ». Et puis c'est comme ça qu'ils ont pu découvrir la scène néerlandaise qu'ils ne connaissaient pas du tout. Notamment The Outsiders, Q75,
I'm correct. Q65.
Voilà ce genre de groupe-là. Donc ça, c'est une source intarissable pour eux qu'ils ont à deux pas de chez eux pour découvrir de la nouvelle musique.
Radio Lomax, c'est fini pour cette semaine. Retrouvez la suite des interviews des artistes des nuits de l'Alligator la semaine prochaine. Donc au programme, cette semaine au 106, mercredi 27, concert de Bertrand Belin. Le lendemain, concert du Boulevard Désert. Et enfin, vendredi soir, concert de Gilly Yalo. À la semaine prochaine. Don't know this guy. Got the loot.